This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Alors cette année-là, 1989, en dehors du fait que le mur de Berlin s'écroule, je dis en dehors, ce qui est un événement, qui est un aboutissement plutôt qu'un événement débute quelque chose, la chute du mur de Berlin, nous avons parlé aussi des manifestations et de la répression de la place Tiananmen. En réalité, cette année-là, il existe un vaste mouvement d'émancipation des peuples. Et l'Europe de l'Est, dont la partie la plus émergée sera donc cette chute du mur, l'Europe de l'Est est en effervescence. Alors c'est dû beaucoup à ce qui se passe en Union soviétique, car la glasnost et la perestroïka de Mikhail Gorbatchev va peu à peu s'instaurer et donc transformer fondamentalement les rapports entre les peuples et leurs gouvernements. Il faut rappeler que la République populaire de Pologne, qui est sous un gouvernement communiste, pour mettre un terme aux grèves, accepte l'organisation d'une table ronde le 6 février 1989 avec les représentants du syndicat Solidarité. Ce mouvement Solidarité va donc amplifier un mouvement de grève et, nous allons le voir par la suite, déclencher là aussi de grandes mutations politiques. De son côté, le 11 février, le Parti socialiste ouvrier hongrois autorise le pluralisme politique en République populaire de Hongrie. Et c'est la Hongrie qui va provoquer les premiers coups de canif au rideau de fer. En Union soviétique, le 26 mars, ont lieu les premières élections libres, premières élections nationales depuis 1917, date de la révolution d'octobre. La participation se monte à 90% et le corps électoral choisit un nouveau congrès des députés du peuple. Celui-ci se réunit en mai pour élire le Soviet suprême et pour élire Gorbatchev pour un mandat présidentiel de 5 ans. L'appareil du parti réussit à imposer ses candidats dans les campagnes en Asie centrale, mais essuie de cuisants échecs à Moscou, où triomphe Boris Eltsine, que l'on a ensuite beaucoup vu à la télévision, à Leningrad, à Kiev et dans les grandes villes de l'Union soviétique. Au Congrès, si les communistes ont la majorité, 88%, ils sont divisés en courants si opposés qu'aucune discipline de vote ne peut s'instituer. On voit par là que l'appareil qui structure l'Union soviétique, est en train de se déliter. En mars, la République socialiste de Roumanie est en effervescence. 6 anciens dirigeants communistes roumains adressent une lettre à Nicolae Ceaușescu, le dictateur, pour l'inciter à changer de politique. Ils sont immédiatement mis aux arrêts, puis relégués dans des fonctions subalternes. Le ferment est dans le fruit et les choses vont se précipiter. La Pologne, de son côté, poursuit ses discussions entre le gouvernement et le syndicat Solidarité. Des accords sont finalement signés le 5 avril entre le pouvoir communiste et Solidarité. Le Premier ministre Rakowski doit accepter l'établissement du pluralisme syndical et la démocratisation des institutions. Des libertés civiques et politiques sont accordées. Solidarité est légalisée et un Sénat est librement élu et institué. Du côté de la Hongrie, les choses évoluent aussi et le gouvernement hongrois décide d'ouvrir le rideau de fer et donc de faciliter les échanges entre la Hongrie et l'Autriche. Et c'est là que les choses vont commencer à aller très mal. Des milliers de gens, des milliers d'Allemands de l'Est notamment, vont se précipiter en Hongrie pour pouvoir passer, tenter de passer du côté de l'Ouest. Le 25 mai, en Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev devient président du Soviet suprême. Alors, c'est un événement important parce que grâce à la personnalité de Gorbatchev, les choses vont se dérouler en évitant le bain de sang, puisqu'il refusera toujours, tout au long de l'année 89, l'utilisation de la force. Et du coup, il va affaiblir les forces dites du pacte de Varsovie, qui peu à peu vont se déliter elles aussi. Gorbatchev va également normaliser ses relations avec la Chine de Pékin, et des relations diplomatiques normales vont reprendre après 30 ans d'ignorance. Des élections législatives libres vont avoir lieu en Pologne et la victoire du syndicat Solidarité va s'imposer. Ils vont remporter les élections, soit 35% des sièges de la Diet, qui est le Parlement polonais, et 99% des sièges des sénateurs sur 100. Le nouveau Parlement élit le général Jaruzelski à la présidence de la République. On se souvient que c'est ce monsieur qui est en uniforme, venait à la télévision avec des lunettes noires, absolument noires. On ne voyait pas ses yeux. Il y avait un petit relent d'image un peu fasciste, ou fascisante en tout cas. Le 12 et 15 juin 1989, donc, Gorbatchev vient en Allemagne de l'Ouest. Et c'est un voyage totalement triomphal. Je pense que les Allemands de l'Ouest et les Européens en général saluent celui qui a ouvert les portes de l'Union soviétique. En Hongrie, le 13 juin, une table ronde a lieu entre le pouvoir communiste et l'opposition pour négocier une transition pacifique vers la démocratie. Le Parti communiste hongrois se divise, des soulèvements populaires ont lieu, voire même une contre-révolution voit le jour, mais les choses se règlent et la République de Hongrie finit par retrouver un certain calme avant que les choses s'enveniment globalement. En juin, la résistance des groupes luthériens en République démocratique allemande, en Allemagne de l'Est, qui protestent contre les fraudes électorales, la corruption, tiennent des meetings et manifestent contre les arrestations. Le secrétaire général du parti, Heinrich Honecker, est contraint de faire des concessions et il octroie des laissez-passer multiples à des Allemands de l'Ouest pour venir rendre visite à leur famille à l'Est. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Ce mouvement s'amplifie et de nombreux citoyens de RDA veulent quitter le pays et se réfugient dans les différentes ambassades de République fédérale allemande, mais côté Est, à Budapest, à Varsovie, à Prague. Et comme on l'a vu lundi, ce sont l'arrivée de ces Allemands de l'Est dans ces ambassades de RFA qui vont provoquer par la suite la chute du mur. Le 6 juillet, Mikhail Gorbatchev vient à Strasbourg, à l'Assemblée européenne, et parle de maison commune européenne. L'accueil est évidemment unanime, triomphal, les députés européens se lèvent, applaudissent et saluent le discours de Gorbatchev. L'ONU publie le 10 juillet un rapport sur les droits de l'homme rédigé par un Roumain, Dimitru Mazilou, et celui-ci présente une vue très critique, un panorama bouleversant du régime communiste de Nicolae Ceaușescu. Ce même monsieur apparaîtra ensuite, sera emprisonné après ce rapport, lorsqu'il revient en Roumanie, et il apparaîtra ensuite au moment de la révolution en appelant le peuple roumain au calme. Le mur, donc, on est le 13 août, l'anniversaire de la construction du mur de Berlin passe mal, des mouvements divers se produisent et les choses commencent à aller très très mal à l'Est. La République de Hongrie, comme je le disais tout à l'heure, réalise et concrétise l'ouverture du rideau de fer et donc favorise l'ouverture avec l'Autriche et les gens commencent à traverser et donc aller d'Est en Ouest. Et c'est là que commence la porosité, disons, du rideau de fer et qui va emporter totalement de nombreux pays vers la démocratie, ou en tout cas des embryons. C'est un Premier ministre non communiste qui dirige le gouvernement polonais, il s'agit de Tadeusz Mazowiecki, et les choses commencent à aller très très mal en Roumanie. Nombreuses manifestations, des mouvements se créent et les choses vont aller très mal pour le dictateur. Il en est de même en Tchécoslovaquie, où là, c'est le seul pays où les choses vont se passer dans un relatif pacifisme. C'est la charte des 77, dite des 77, qui a été signée en 1977, qui réunit un certain nombre d'opposants, ils ne sont que 206, qui va servir de détonateur. Cette charte, donc, va proposer une pétition en 1988, à la fin de l'année, et cette pétition va provoquer des réactions diverses. Et ça va déclencher ce que l'on a appelé la révolution de velours. C'est-à-dire que grâce à un mouvement populaire, eh bien, les choses ne vont pas se solder par des affrontements policiers. Et on va voir une chose paradoxale, c'est-à-dire que le printemps de Prague que l'on a connu en 68, qui a été réprimé par les soviétiques, va enfin émerger sous une autre forme, bien que le dirigeant de l'époque de 68, Alexandre Dubček, sera nommé après la révolution, donc président de l'Assemblée nationale. Mais c'est sous le leadership de Václav Havel que les choses vont se produire.
Ils ont l'âge d'un printemps qu'ils n'ont jamais connu, ce printemps de Prague dont depuis 20 ans la nostalgie hantait leurs aînés. Pour la quatrième journée consécutive, lycéens, étudiants arrivent ce matin sur la place Venceslas, au centre de Prague. Ce soir, en ce moment même, la foule submerge les rues. 200 000 manifestants. Inimaginable, la semaine dernière encore, la police n'intervient pas, pour le moment en tout cas. Ils marchent en effet pour la première fois vers ce que l'on appelle ici le château, le siège de la présidence, un véritable défi. Jusqu'où pourront-ils approcher? Leur slogan ne laisse aucun doute sur leurs intentions. Ils réclament la démission du gouvernement de M. Miloš Jakeš, le chef du Parti communiste tchécoslovaque, davantage de liberté, des élections libres. Des exigences qui créent maintenant un rapport de force à la limite de la fracture, semble-t-il, pour le pouvoir.
Si vraiment cette majorité silencieuse qui n'a pas bougé commence à bouger, si pas seulement les étudiants, mais les ouvriers ou les autres vont entrer dans ce processus, ils vont se manifester, vont s'exprimer dans la rue ou ailleurs, alors ça, comment vous voulez c'est imprévisible. Bon, ça peut arriver demain, après-demain, ça peut arriver dans un mois ou dans un an.
Mais dès maintenant, l'opposition s'organise. L'écrivain Václav Havel, pour la première conférence de presse de sa vie, annonce ce matin la création du forum civique qui coordonne tous les courants de cette opposition. La Tchécoslovaquie, longtemps paralysée par les séquelles de la répression après le printemps de Prague, encouragée par l'exemple de ses voisins, retrouve le goût du combat.
Cette archive vous permet d'entendre un des leaders de la révolte tchèque. Il s'agit de Féodor Bartoček, qui s'exprime fort bien en français. Et donc, c'est le 20 novembre 1989. Il y a 200 000 manifestants en place Venceslas. Et en fait, le gouvernement, les jours du gouvernement communiste sont comptés. Les choses vont se faire, malgré tout, dans un certain calme. Tout étant très relatif, en tout cas. Les forces de police n'interviendront pas. Alors, tout se passe sur la place Venceslas. Je vais faire une petite parenthèse pour montrer l'importance des places. On peut presque remarquer, et surtout avec le recul aujourd'hui, que sans les places, probablement que les démocraties n'auraient jamais vu le jour. Et je ne citerai que quelques noms de places. Alors, la place de la Bastille, pour ce qui concerne la France, bien entendu, mais la place Tiananmen, dont on a parlé hier, la place Venceslas dont on parle ici, la place Tahrir pour les événements, les printemps arabes qu'on a connus récemment. Souvent, et il est un architecte français, Haussmann, qui disait que les places étaient, c'était pas bien. Les carrefours, c'était mieux, parce que les carrefours, ça permettait aux forces de police de converger vers les endroits où les gens se réunissaient. Mais les places, la place en elle-même, c'est pas très bon, parce que ça permet justement des manifestations massives, et surtout lorsqu'elles sont grandes. Voilà, donc il resterait à étudier l'importance des places dans les mouvements de démocratisation populaire. En tout cas, donc, en Tchécoslovaquie, pour revenir à notre sujet, les choses s'arrangent plutôt et peu à peu, grâce au calme et au pacifisme de Václav Havel, eh bien, le peuple va pouvoir se faire entendre. Alors, quelques mots sur Václav Havel. Václav Havel, c'est un dramaturge et essayiste. Il est né en 1936 à Prague. Il a été président de la République tchèque et il est décédé le 11 décembre 2011. Il a passé 5 ans en prison. Il est devenu, presque malgré lui, une figure de l'opposition tchèque. Il est donc été l'un des animateurs de la Charte 77, opposé au processus de normalisation de la société pour le respect des droits de l'homme, en référence à la charte internationale qui avait été signée en 1975 à Helsinki. Il était dans le sillage du printemps de Prague 68. C'est un auteur très familier de Kafka, dont l'œuvre est restée un petit peu ses livres de chevet. Il est l'auteur notamment de « Pouvoir des sans-pouvoirs », qui est un essai qui s'inscrit tout à fait dans la mouvance de la désobéissance civile et qui montre la force de la résistance morale. À signaler que un an avant son décès, alors qu'il est très malade, il rencontrera le Dalai Lama, avec qui il aura une discussion très approfondie, justement sur ces thèmes de la résistance morale. Alors les choses se passent bien, à peu près bien, en Tchécoslovaquie. Il n'en est pas de même pour la Roumanie, où le vieux dictateur Ceausescu, qui est là depuis très très longtemps, trop longtemps, ne va pas céder la place aussi facilement.
Nicolae Ceausescu. Novembre 1989. Alors que l'Europe de l'Est tout entière bascule dans la liberté, Nicolae Ceausescu, dictateur inamovible de la Roumanie socialiste depuis 1965, semble lui bien décidé à tenir bon avec les vrais communistes, chinois, albanais, cubains et vietnamiens, tous opposés à Gorbatchev. Il organise encore à Bucarest un congrès surréaliste de son parti communiste. Pourtant, ce dernier déploiement d'arrogance vient tout juste avant la chute. Moins de 3 semaines plus tard, le guide, le conducator, comme il aime se faire appeler tel un chef fasciste, est happé par la seule véritable insurrection populaire de cet automne 1989. Après coup, la chute du régime communiste roumain, après celle de ses 5 autres homologues de l'Allemagne de l'Est à la Bulgarie, apparaîtra comme tout à fait logique, inscrite dans l'effondrement naturel tel un château de cartes de l'ensemble des régimes communistes d'Europe de l'Est.
Ce qui va se passer en Roumanie est assez terrible, mais en même temps inédit. Parce que pour la première fois, dans le cadre d'une insurrection, d'une vraie insurrection violente, avec des forces qui s'affrontent, de police, militaires, bien qu'une partie de l'armée roumaine soit favorable aux forces insurgées, ce qui va se passer, c'est que la télévision va jouer un rôle très important. Un groupe d'insurgés va prendre la télévision roumaine dès les premiers jours de l'insurrection et tout va en partie se passer sous les objectifs des caméras. Qui plus est, les télévisions occidentales vont pouvoir rentrer dans le pays vu la déliquescence ambiante et filmer énormément de choses de ce qui se passe. Donc au fond, on va avoir une révolution qui se passe en direct. Et tous les médias occidentaux vont en rendre compte, notamment comme celui-là.
Tout d'abord, un studio étriqué, une atmosphère de réunion syndicale, une petite foule qui se bouscule maladroitement autour d'un micro et d'un drapeau. Et pourtant, c'est de ce studio de la télévision roumaine que jailliront, après 42 ans de communisme, les premiers mots et les premières images de liberté. Écoutez. Ne dites plus la Roumanie socialiste, dites la Roumanie. Dans les rues de Bucarest, les Roumains n'en croient pas leurs oreilles. La radio officielle vient de tomber. Et c'est par la voix de Mircea Dinescu, poète et surtout opposant célèbre, qu'ils apprennent que Nicolae Ceaușescu, le tyran détesté, vient de quitter le pouvoir. Déjà, une source diplomatique occidentale affirme que l'ancien ministre déchu Corneliu Manescu, 63 ans, aurait pris le pouvoir à la tête d'un front de salut national. Confusion. Sur les écrans de télévision occidentale, le visage de cet homme, acteur célèbre de la télévision officielle roumaine, passera un instant pour celui du nouveau numéro 1. L'information est fausse, mais l'émotion est juste. L'acteur n'est alors même pas sûr de survivre à son geste de défi aux autorités. Peut-être allez-vous nous vaincre, dit-il. Peut-être allons-nous mourir. Peut-être que tout à l'heure, ces mêmes caméras diffuseront de nouveau vos discours cyniques. Mais regardez-moi, je ne suis ni Dieu ni diable, je suis un simple Roumain, Roumain. Je vous adjure de me rejoindre ici, à la télévision.
Acum l-am aici pe Mircea Dinescu, pe care de asemenea, din păcate nu din vedere, din auzit îl cunoașteți toți.
Et en dépit des 20 morts de la nuit et des mitrailleuses de la milice qui claquent encore dans Bucarest, des milliers de Roumains répondent à son appel. Premières images de citoyens anonymes, de Roumains sans leur chaîne et de prise de parole libre, libre. Soyons vigilants, attention, les hommes de la milice sont encore partout. Ceaușescu a plus d'un tour dans son sac, soyons prudents, nous ne savons pas toujours où il est.
Energia și puterea noastră să fie folosită. În acest moment, Mircea Dinescu, eroul nostru național.
Mais le miracle est déjà là, dans les milliers de voix qui n'ont pas oublié le vieil hymne national roumain. Rien n'est vraiment réglé, mais tout le monde sait déjà que grâce à une partie de l'armée favorable aux manifestants, les terribles miliciens de la Securitate ont pour l'instant cédé le terrain dans le centre de la capitale. Et on chante, malgré les rumeurs d'une contre-attaque des partisans de l'ancien dictateur en direction des locaux de la télévision qui continuent à parler au pays et au monde. Et avec la nuit, la liberté naissante tombe en direct à la télévision roumaine. Incroyable. Au siège de l'ex-comité central, dans l'ancien palais royal, ils sont des centaines de milliers à écouter les proclamations du nouveau comité de salut national. Pour s'adresser à la foule, le premier orateur n'utilise pas le terme « tovaretch », camarade, mais « fratsilor », mes frères. Et c'est immédiatement le délire. Et puis, sans transition, arrive au balcon un petit homme qui annonce qu'il est sorti de prison voilà une heure à peine. C'est Dimitri Matsilou, diplomate roumain des Nations Unies, incarcéré pour avoir osé rédiger un vrai rapport sur les droits de l'homme en Roumanie. Il avait disparu depuis. Comme tous les orateurs, il va appeler à la prudence, au calme, dire non à la vengeance, oui à la modération. À la télévision, le défilé des dernières victimes connues de 25 ans de police politique continue.
Marile valori risipite astăzi în lume. Cultura română este unită prezentului.
Dehors, l'histoire sanglante de la Roumanie est encore en marche. Elle n'a fait pour l'instant qu'un trou dans le drapeau roumain, un drapeau où les symboles du pouvoir communiste ont été systématiquement arrachés.
Le 22 décembre, Nicolae Ceaușescu et son épouse, qui jouait un rôle très important dans la dictature, est contrainte de quitter Bucarest. Il s'enfuit. Ils seront capturés à la fin de la journée. Ensuite, présentés devant un jury, une sorte de tribunal populaire qui va très très vite les condamner, évidemment. Et ils seront exécutés dans la cour de ce tribunal improvisé le 25 décembre, à l'issue de ce procès assez expéditif. Mais on comprend que la population n'était pas très amène à l'égard de ce couple. Les pays vont peu à peu tous. L'Europe de l'Est va être complètement chamboulée et donc le tout, la partie ultime, va se concrétiser avec la chute du mur. Et pendant ce temps, en Europe de l'Ouest, à Barcelone, un pianiste commence à être très très connu. Round About Midnight, la composition de Thelonious Monk, revisitée par Michel Petrucciani, le petit pianiste de Valence, et s'est hissé au plus haut niveau des grands solistes de jazz. Il est là à Barcelone, au Palais de la Musique, en novembre 1989, et il joue en solo, ce qui n'était pas tout à fait à son habitude, mais il a moins enregistré en solo qu'en trio. Et c'est en tout cas en solo qu'il montre tout son art, de sa façon d'explorer le thème avec des variations extrêmement imaginatives. Cette même année, on voit donc que l'Europe de l'Ouest vit dans une totale, pas ignorance, mais en tout cas dans une tranquillité qui contraste avec les bouleversements qui ont lieu en Europe de l'Est. Et d'ailleurs, en Autriche, à Salzbourg, un grand, très grand festival de jazz voit se confronter deux grands pianistes, Herbie Hancock, Joshua Nuell.
Thank you.
Voilà, nous allons laisser se confronter Herbien Koch et Joe Zawinul, car il est temps de conclure cet épisode de 1989. Demain, nous aborderons un autre sujet plus léger et plus grave, celui de la fatwa à l'égard de Salman Rushdie. Mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.